10h45, minutes, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Yann Marceau. Audrey Pinchot est là pour nous accompagner. Jusqu'à 14h, on est là. Pascal CV s'en vient. C'est le grand retour de Denis Gravel aujourd'hui.
Oui, j'ai hâte de voir dans quel état, je t'avoue, parce que dans les derniers jours, il était complètement à terre.
Ouais.
Je ne sais pas si la voix va être présente, l'énergie, j'ai aucune idée. J'espère qu'il ne nous ramène pas de microbe, mettons. Là. Ah. Mais il va être là. Fait que le trio est officiellement de retour après deux semaines.
Parfait. Puis toi, tu couches où ce soir? Parce qu'il ne faut pas que tu sois absente demain.
Je couche où? J'ai
40 centimètres.
Oui, je sais. J'ai, Véro ou chez Max? Ça va dépendre.
Ça va dépendre. ça va dépendre d'eux. Parce qu'il y a un avertissement de tempête hivernale pour ce qui est d'aujourd'hui. Actuellement, sur Québec, c'est un moins 18 avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 21. Aujourd'hui, c'est ensoleillé. Puis ça va rester comme ça jusqu'à ce soir. Par la suite, neige et poudrerie devraient se mêler à la danse. Accumulation de neige entre 2 et 4 cm. Des petites rafales à 50 km/h au courant de la nuit, minimum de moins 17. Et là, demain, ça s'en vient. 15 à 25 cm sur Québec avec des rafales entre 60 et 80 km/h, maximum de moins 9 degrés. Et vendredi, retour à la normale, alternance soleil-nuage avec un maximum de moins 9 degrés.
Il semble y avoir un incident sur le pont présentement, pont Pierre-Laporte. Tantôt, il y a un texto qui nous disait que c'était une panne. Là. C'est directement direction sud à la fin du pont. Fait que quand vous allez chercher peut-être la 20, là, il semble y avoir un bon ralentissement de ce côté-là aussi. Le reste, ça roule évidemment, quoi que ce soit, 88-971-1021, texto.
On est tombé sur un récit numérique sur le site de Radio-Canada. Puis moi, j'aime bien lire ce type d'article-là. C'est des articles de fond avec des témoignages, puis c'est très, très travaillé. Puis on parlait de violences sexuelles chez les hommes.
Ouais.
Et on nous dit qu'au Canada, il y aurait un homme sur 10 qui aurait été victime d'agressions sexuelles durant son enfance et ou son adolescence. Puis on nous parle de l'histoire de ces gars-là dans cet article-là, puis j'ai trouvé ça franchement intéressant, mais surtout sur les impacts. Tu sais, un jeune garçon qui va se faire abuser par une femme à 6, 7, 8 ans, il y en a plus qu'on pense.
Oui, puis ils n'en parleront jamais, puis rendu dans la trentaine, quarantaine, tout d'un coup, il y a l'autre problème qui vient avec. Là, ça sort tout croche. C'est des gens qui n'ont pas pris des recours. C'est quand même triste, puis tu l'as dit, mais c'est super bien fait. Je vous invite à aller lire, honnêtement. Là.
Ouais.
Tu prends conscience d'à quel point il y a peut-être quelqu'un que tu connais de proche ou de loin qui a malheureusement vécu ça. Là.
Ben, c'est un gars sur 10.
Oui, c'est capoté.
C'est un gars sur 10, puis bien honnêtement, moi, j'ai jamais entendu parler de ce type d'histoire-là. T'sais, j'ai été chanceux, là. J'ai été tout le temps protégé durant mon enfance, ce qui fait en sorte que j'ai comme été... bon, il y en a qui vont dire que j'ai viré croche un peu plus tard, mais tu sais, je suis quand même relativement correct. Là.
Ouais.
Mais quand j'entends parler de ce type d'histoire-là, je me dis, OK, dans mon école secondaire, il y avait des enfants qui étaient victimes d'abus sexuels de la part de femmes ou d'hommes, bien entendu. Mais c'est le genre de choses auxquelles on ne pensait pas. Puis en même temps, si moi, ça m'est arrivé, 6, 7, 8 ans, mettons, puis je raconte ça au secondaire, Audrey... À mes chums, ils vont dire...
T'es chanceux. T'es voyons. T'es...
Plains-toi pas. Ouais,
exact.
Mais les dommages psychologiques que ça peut créer chez ces enfants-là...
C'est énorme.
Surtout quand t'as 30, 40, 50 ans, quand ces gens-là deviennent des adultes.
Au niveau relationnel
ça
aussi.
Ça peut être énorme, ben oui.
Puis c'est plate à dire, mais je pense que le tabou que ça crée nous influence dans notre façon de penser. Moi, je me souviens, plus jeune adolescente aussi, quand on parlait d'agression sexuelle, il n'était jamais question d'un homme qui se serait fait agresser. C'était les femmes qui étaient toujours agressées. Mmh. Puis un homme agressé, c'est comme arrête, t'as sûrement aimé ça, tu sais. Puis jusqu'à ce que sur mon chemin au cégep, je croise un gars qui est devenu un ami, qui lui, a vécu des agressions sexuelles plus jeune, lui et son frère. Puis je me souviens qu'à entendre son histoire, j'avais réalisé à quel point, oh tabarnouche, OK, c'est quelque chose qui existe réellement, puis ça a vraiment des impacts. Fait que c'est un sujet qui est difficile à aborder. Puis 88-971-1021, en passant, si vous avez, malheureusement, des histoires, des témoignages ou des questions, quelque chose à dire, c'est de ça qu'on va jaser dans les prochains instants.
On a le plaisir de jaser avec Vincent Chouinard, qui est coordonnateur clinique pour l'organisme régional Autonomie, qui est un centre de ressources pour hommes. On va parler des hommes victimes d'abus sexuels, entre autres. Monsieur Chouinard, merci d'être là.
Ça fait plaisir, merci de l'invitation.
Est-ce que c'est votre première à la radio?
Non.
Non! Vous êtes un habitué?
Mais une première ici.
Et ici?
On se souvient toujours de notre première. Moi, je me dis que tu vas te rappeler de Boulevard.
Donc, bienvenue chez nous. Qu'est-ce qu'on fait exactement chez Autonomie? Vous rencontrez combien d'hommes à l'année? Comment ça fonctionne? Qui sont les gens qui s'occupent de l'organisme Autonomie?
Donc, autonomie, bon, on est là pour les hommes, peu importe, 18 ans et plus, en fait.
Ouais.
Et puis, on voit à peu près en service d'accueil, tout commence par un service d'accueil à autonomie, on voit entre 600 à 700 hommes par année. Donc, c'est énorme. Là,
ouais.
Le roulement d'hommes qu'on voit, c'est énorme. Et puis, ils viennent chercher du soutien en lien avec différentes difficultés. Souvent, la rupture conjugale est un gros moteur chez
ouais.
les hommes. Ils vont arriver. Puis tout ce qui peut en découler, là, juste un gars qui est triste que c'est fini, à un gars qui est pris avec la DPJ, un divorce qui est violence conjugale, etc. Là, donc, il y a de tout. Là, mais souvent, la rupture est un moteur chez l'homme pour dire « là, je n'en peux plus, puis j'ai besoin de soutien ». Et on fait, bon, justement, l'agression sexuelle, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, l'estime de soi, la gestion des émotions. On a un petit peu d'hommes, des fois, qui sont judiciarisés pour certains comportements violents
ouais.
qu'on va soutenir, par DPJ.
Vincent, qui sont les gens qui nous accueillent? Je sais pas, moi, je prends un cas type, là, j'ai des difficultés psychologiques, là, je regarde... le psychologue, bon là j'appelle au public, ce psychologue c'est quoi, c'est presque un an et demi d'attente, un an, 6 mois, là je m'en vais au privé, ouais ça coûte cher, j'appelle un bon psychologue, oh 6, 7, 8 mois d'attente, quand je vais chez vous, est-ce qu'on m'accueille tout de suite, puis qui sont les gens qui m'accueillent, est-ce que c'est des gens qui sont formés?
Oui, absolument. Donc, ce n'est pas des bénévoles qui donnent les services, c'est des professionnels. Comme moi, j'ai un bac en psychologie, une maîtrise en travail social. Ça fait 13 ans là, que j'étais à autonomie, tout ça.
Ouais.
Donc, c'est tous des gens qui ont étudié dans ces domaines-là, psychologie, travail social, éducation spécialisée, des choses comme ça. Après ça, oui, il y a moyen que ça soit rapide parce qu'à autonomie, on a du 100 rendez-vous. Donc, tout commence, comme je l'ai dit, par un service d'accueil pour évaluer la situation, analyser c'est quoi ton besoin, on peut-tu t'aider ou pas ici à autonomie quand un gars arrive. Alors, on a du mardi au jeudi un 100 rendez-vous l'après-midi, là, à 1h45 pour être précis. Donc, un gars pourrait arriver, se dire OK, moi, comme tantôt, le gars qui nous écoute, il pourrait se présenter à 1h15 puis être vu là. Là.
Il y en a-t-il beaucoup qui viennent en 100 rendez-vous?
Oui.
Ah ouais?
Oui. Des fois, même si ça déborde, on ne peut pas toutes les voir. Fait que c'est pour ça que des fois, on dit arriver tôt. Mais oui, des fois, il y a un jour qui peut avoir personne, puis d'autres, il y en a 6 qui se présentent, on peut juste en voir 3, tu sais. Fait que c'est ça. Mais après ça, sinon, on a d'autres plages avec rendez-vous, où là, bon, il peut avoir quelques semaines d'attente. Et là, on a ce premier rendez-vous-là, puis là, on va regarder avec le gars, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut t'aider ou pas? Est-ce que ce que tu nous dresse comme problème, nous, on peut t'aider là-dedans ou pas. T'sais, si, par exemple, un gars a des gros problèmes de toxicomanie, ben nous, on va référer ailleurs.
Ouais.
Ou des gros problèmes de santé mentale ou d'anxiété qui veut guérir, ben là, c'est de la psychothérapie que ça prend. Nous, on ne fait pas de psychothérapie.
Mais juste ça, quand je me présente chez Autonomie, ça me rassure parce que, tu sais, souvent, on est isolé là, quand on est rendu là, dans notre tête, on est très, très isolé puis on a de la difficulté à parler de ça avec nos amis. Ben d'aller chez Autonomie puis avoir quelqu'un qui va faire le tri, est-ce que, oui, on peut te prendre ou est-ce qu'on pourrait te conseiller? Puis si on te conseille, on te dit d'aller à telle plage. Je trouve que c'est rassurant pour le bonhomme qui arrive, qui est un peu désarmé. Des auditeurs qui nous écrivent, je prends le cas de Jonathan, change son nom, il dit « J'ai été abusé de 9 à 15 ans. J'ai jamais parlé de ça avant mes 45 ans. Ça a détruit mon enfance complètement. » Mon adolescence, ça a même causé mon divorce. Beaucoup d'anxiété par rapport à tout ça. Niveau psychologique, ça n'a pas de bon sens. Sexualité, c'est défaillant. Allant même jusqu'à une tentative de suicide. Les impacts sur une agression sexuelle, c'est ça, là.
Absolument.
C'est quoi l'ampleur par rapport justement à ces abus-là, ces violences sexuelles-là chez les hommes? Tu sais, on dit 1 homme sur 10 au Canada, mais si on veut parler peut-être du phénomène dans la capitale nationale, là, bon, j'imagine que c'est difficile d'avoir des chiffres, là, mais ça ressemble à quoi?
Mais c'est ça, même des fois, moi je voyais plus des 1 sur 6, là, je pense que ça dépend au Québec, tu sais, Canada, bon, tu sais, les sources. C'est difficile d'avoir des chiffres parce que pour ces chiffres-là viennent souvent des plaintes policières. Mais tu sais, les hommes qui vont aller se plaindre, là, que ce soit de la violence sexuelle ou de la violence conjugale, là, avant qu'un homme se rende au poste de police pour dire « je suis victime de ça », bonne chance, il y a toutes sortes d'obstacles.
C'est 1 sur 100 peut-être, 1 sur 200?
J'ai aucune idée, mais c'est vraiment pas gros.
Ouais.
Là. Nous-mêmes, tu sais, la majorité des gars que j'ai vus, moi, dans mon groupe que j'anime pour les hommes victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance, la majorité n'ont jamais porté plainte. Là. Puis encore moins ceux qui ont été agressés par des femmes. Ouais, là, si il y a une différence.
Vous en avez combien par année, des gars qui viennent pour violences sexuelles?
Bien, tu sais, qui vont finir dans mon groupe, il y a tout un processus, là, ouais. Tu sais, mais qui vont finir dans mon groupe, on a peut-être, bon, à peu près, c'est pas beaucoup, là, j'en fais un par année, donc, bon, c'est pas nécessairement très publicisé non plus, c'est pas très connu, mais donc, à peu près une dizaine par année, mais qui vont se présenter en service d'accueil ou qui vont nous nommer, qui ont été agressés sexuellement, mais qui viennent pas nécessairement pour travailler spécifiquement ça ou parler de ça, ben là, on est en trentaine, quarantaine, cinquantaine.
Ouais. Si je peux me permettre, parce que je pense
qu'il y en a qui ne nous le disent pas. Hein. Ouais. En accueil, on le découvre dans un suivi. Ils viennent nous parler de quelque chose.
Ouais.
Puis là, tout d'un coup, le fameux classique de « il me reste une rencontre, puis là, je déballe quelque chose de super dramatique au thérapeute. » Là, mais là, « ah, oh, ouais, j'avais pas dit, mais c'est vrai, j'avais été agressé sexuellement. » Puis là, « ah, mais là, c'est là que tu me le dis. »
Ouais.
Mais c'est parce que c'est tellement tabou, les gars. « Ah, oh, c'est pas important, j'ai pas besoin de, passer, de
mais
parler
il,
de ça. »
Il est prêt à se libérer, mais si je peux me permettre, pour ce qui est des services policiers, parce que les gens sont des fois sont un peu moins enclins à aller se plaindre parce qu'ils se disent, tu sais, ils vont me poser plein de questions. Puis c'était vrai dans le temps, tu sais, quand une fille allait se plaindre d'un gars, mettons, un homme d'affaires, ben, le flic qui était pas formé en psychologie, disait, mais t'as-tu vraiment été agressé? T'étais-tu saoul? Puis, tu sais, il faisait quasiment du victim shaming.
Ouais.
Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les services de police, je vais parler pour le service de police de la Ville de Québec. Je sais que tous ceux qui vont recevoir les victimes, hommes comme femmes, ont eu des formations puis ils ont une base psychologique pour recevoir ces plaintes-là. Il n'y a plus de questions qui sont hyper intrusives et tout ça. Tu sais, t'es-tu sûr? T'es-tu au courant de l'impact que tu vas avoir dans sa vie? Il va perdre. Il n'y a plus ce type de questions-là. Ces gens-là sont dûment formés maintenant. Donc, si vous voulez le faire, vous le ferez quand vous voulez, mais si vous voulez le faire, les gens qui sont prêts à vous accueillir au service de police de la Ville de Québec sont formés pour ça sans jugement.
Est-ce que je peux me permettre, Vincent, de te demander, peut-être pour les gars qui nous écoutent, elle est où la limite? Agression sexuelle, c'est plus facile pour nous, on dirait, à imager. Là. J'imagine que la limite de l'inconfort qui est assez claire, mais quand on parle de violence conjugale chez l'homme, tu sais, j'ai le sentiment que l'homme va avoir tendance à peut-être banaliser des fois un geste qu'une femme peut poser en se disant comment elle était fâchée, c'est contextuel, c'est... Où est-ce qu'on peut dire que tu vis de la violence conjugale ou de l'abus sexuel?
Bien, tu sais, il y a les définitions légales, tout ce qui est tout comportement qui est non consenti, donc un consentement libre, éclairé, enthousiaste, répété, etc. Des fois, tu sais, dans nos groupes, on va dire aux gars, ça vous est-tu déjà arrivé, mettons, d'avoir une relation sexuelle avec votre conjointe, ça vous tentait pas, mais était tellement insistante que vous avez fini par dire oui. Bon, bien ça, là, on s'approche de ça, là. Tu sais, il y a une espèce de harcèlement sexuel. Des fois, il y a des blondes qui vont mettre de la pression. Si tu le fais pas, je vais aller voir ailleurs. Si tu le fais pas, tatatati, tu sais, t'es plate. Des fois, ils vont avoir... du shaming aussi, là, tu bandes plus, t'es rendu mou, tatatata, pourquoi tu prends pas du Viagra? Il y a des femmes qui peuvent être très méchantes, là, mettons, une fille, il y a des gars qui se réveillent, qui sont en train d'être chevauchés, là. Mettons, monsieur, il y a une érection matinale, là, puis madame est en train de se gâter, là. Mais ça, c'est une agression sexuelle, tu sais. Même si lui décide de finir, entre guillemets, la job pour faire plaisir, puis qu'il va jusqu'à l'orgasme ou l'éjaculation, bien, c'est une agression sexuelle quand même. Mais tu sais, pensez-vous que ce gars-là, il va se lever, il va prendre son manteau, il va aller voir le SPVQ, dire « j'ai été agressé sexuellement par ma conjointe ce matin
ouais. ». Chez Autonomie, ça se passe comment? Est-ce que c'est des rencontres... bon, au départ, de ce que je comprends, c'est une rencontre individuelle pour évaluer la personne.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des rencontres aussi juste individuelles ou c'est en groupe? Là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est
un
groupe par année à peu près?
Il y a les deux.
Ouais.
Donc, on a des services de groupe, des services individuels. En général, si on peut mettre un gars dans un groupe en lien avec le sujet qu'il veut aborder, on trouve ça plus efficace parce que là, tu as toute la gang de gars qui est là. C'est validant, c'est normalisant pour un gars de faire du groupe. Souvent, les gars sont un peu réticents. Ils disent « Ah oh non, je suis trop gêné, je ne vais pas faire du groupe. » Mais il faut un peu les travailler là, pour les convaincre que ça va être la bonne modalité d'aide pour eux. Mais des fois, bon, ça ne marche pas à cause des horaires. Ou mettons, des gars qui travaillent de soir, nos groupes sont le soir normalement. Fait que des fois, on va offrir quand même de l'individuel.
Okay. Puis y a-t-il une certaine, un certain réchauffement quand tu leur jases, le groupe est devant toi, tu sais que c'est exemple des victimes d'abus sexuels dans leur enfance ou dans leur adolescence. Y a-t-il comme un genre de réchauffement, puis après ça, il y a des témoignages. C'est quoi les questions qui sont posées? Est-ce que les gars ont plus besoin de parler que d'entendre quelque chose? Comment ça fonctionne?
Bien, ça dépend du groupe. On a des groupes de type ouvert, par exemple, hommes en rupture ou gestion des situations difficiles, où est-ce que là, les gars, il n'y a pas de matériel prédéfini. Les gars arrivent avec leurs difficultés, on fait un petit tour de salle, voir qui va bien, qui va moins bien, puis là, on va se mettre à parler des sujets de l'heure là, que les gars amènent. Si un gars, mettons, c'est la première fois qu'il rentre dans ce groupe-là, il n'est pas obligé de parler, il va peut-être juste dire son nom, il dira oh, moi, ça va, mais je veux surtout vous écouter, tu sais, briser la glace comme ça.
Fait que c'est le réchauffement, là.
Oh, oui, ça, il n'y a pas de problème. Puis après ça, les autres semaines, il va pouvoir prendre la place qu'il veut. Des fois, on est des groupes comme le groupe pour les hommes victimes d'agressions sexuelles, c'est plus, on a certains thèmes, on a comme un arc narratif qu'on va suivre de thèmes, puis de blocs d'informations qui sont logiques à suivre. Fait que c'est sûr que la première rencontre, on commence pas à raconter comment on s'est fait violer, là. On brise la glace, on fait un petit jeu d'introduction pour apprendre à se connaître, on met les règles du groupe, comment qu'on va fonctionner ensemble. Puis c'est tout, là. T'sais, puis de toute façon, moi, avec ce groupe-là, comme c'est quand même touché, je fais ce qu'on appelle un pré-groupe. Donc, tous les gars, ils ont eu leur service d'accueil, mais après ça, moi, personnellement, je vais tous les rencontrer. Puis je vais leur dire qu'est-ce qu'on va voir exactement dans le groupe à chacune des 10 rencontres qu'on va faire ensemble. Je vais vérifier certaines choses avec eux, voir leur éligibilité. Donc, tu sais, je prépare déjà ce gars-là, puis après ça, la première rencontre, on y va tranquille au début, on apprend à se connaître. Puis c'est par la suite qu'on va plus aborder les sujets plus sensibles en lien avec l'agression. Les conséquences des agressions.
Est-ce que vous faites un genre d'accompagnement en justice, je vais le dire comme ça? Tu sais, je comprends qu'il y a beaucoup d'hommes dans la quarantaine qui viennent vous voir, qui ont vécu des choses plus jeunes. Est-ce que vous les invitez à prendre des actions pour se rendre en justice? Est-ce que vous les accompagnez à travers ça? Comment ça marche?
Donc, on n'a pas un accompagnant là, direct. Là, il faut contacter la police ou les avocats, des choses comme ça. Mais c'est sûr que dans le contexte du groupe, par exemple, ou en individuel, ça pourrait être fait. On va aborder le sujet avec le gars. Est-ce qu'il est encore possible de faire une plainte mm-hmm. ou pas? Est-ce que tu veux la faire ou pas? C'est quoi les avantages, les inconvénients pour toi de faire cette plainte-là? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu chercherais à faire? Puis c'est le fun parce que dans un groupe, c'est ça la force du groupe. Des fois, il y a des gars qui ont déjà porté plainte contre leur agresseur ou leur agresseuse. Et ils vont raconter leur expérience. D'autres ne peuvent plus le faire. Mettons que j'ai déjà eu des hommes de 70 ans là, qui venaient dans ce groupe-là, qui racontaient que c'est un vieux prêtre qui est mort, ça fait longtemps, là, qu'il l'agressait. Donc, lui, c'est plus possible de toute façon. Alors, tu sais, mais ils vont parler. Est-ce que c'est un regret? Est-ce qu'il aurait voulu le faire? Est-ce qu'il pourrait dévoiler ça peut-être à des membres à ses proches? Ou, fait qu'on parle de ça.
Est-ce que tu as l'impression, Vincent, juste le fait d'en parler à 70 ans que tu as été victime de ça, ça peut être une libération? Puis si oui, c'est quoi le processus psychologique qu'on peut avoir quand on se libère de cette façon-là?
Oui, je me rappelle, un des plus âgés que j'avais eu, il avait 76 ans. Il venait faire ce groupe-là à 76 ans. Mm-hmm. Puis quand même, ça prend tout un courage pour un homme de cette génération-là d'arriver, de faire ça. Puis lui, son but, il disait... Je veux pas, je pense qu'il voyait un peu la mort arriver tranquillement. À 76 ans, il t'en reste moins que t'en as de fait. Là. Puis il disait, moi, je veux pas mourir avec ça sur le cœur. Il dit, moi, je veux que mes dernières années de vie, là, je sois libéré de ce fardeau-là. Fait que c'est pour ça que lui, il voulait faire ça.
Est-ce que tu peux vraiment être libéré? T'sais, est-ce qu'il y a des gars qui reviennent vous voir puis qui vous disent, hey, ça a changé ma vie, puis j'ai l'impression que c'est une histoire qui m'appartient plus, ou vous sentez quand même que malgré le processus, t'es marqué à vie? Là?
Ben, je pense que oui, tu sais, tu peux t'en libérer, puis être bien, être fonctionnel, puis passer à d'autres choses, puis tourner la page. On n'oublie pas ça, OK? Ça va nous définir, tu sais. C'est comme si j'ai une blessure, peut-être qu'il faut toujours rester une cicatrice ou quelque chose, mais à un moment donné, ça fait plus mal. Elle est là, ça fait partie de moi, mais j'avance, puis... Donc, absolument, il y a des moyens de... Mais justement, si je reste tout seul dans mon coin à mettre le couvercle sur ma marmite, puis à faire semblant que c'est jamais arrivé, c'est là que ça va aggraver, puis que ça que notre monde peut s'effondrer, là.
La majorité, c'est des femmes qui agressent ces hommes-là, ou vous retrouvez des hommes aussi qui agressent?
Non, les statistiques au niveau là, des prévalences, donc c'est 70% 30%. Donc, mettons, sur 100% d'hommes que je vais avoir qui ont été agressés, 70% ont été agressés par un homme, 30% agressés par une femme. Là, je dis un, okay. mais tu sais... Fait que oui, fait que des fois, là, les gens ont l'impression que les femmes, là, c'est 1% ou 5% d'agresseuses. Non, c'est à peu près 30%. C'est les mêmes dans les recherches aux États-Unis ou ailleurs. C'est ça, c'est un 30% d'agresseuses.
Puis ça a-tu augmenté dans les années 2000, 2010, 2020, ou c'est juste parce que la médiatisation de ces dossiers-là ont comme explosé? Parce que quand toi et moi, on était jeunes, là, des jeunes enseignantes de 21 ans qui s'en prenaient à des enfants de 12, 13, 14 ans, ça n'existait pas. Là. C'était des messieurs de 110 ans à moustache avec un chapeau puis des gros manteaux longs qui s'en prenaient à des enfants. Mais là, c'est des jeunes enseignantes qui se font prendre à avoir des contacts sexuels avec des enfants. J'ai l'impression que ça n'existait pas dans mon temps. C'est peut-être juste qu'on n'en parlait pas.
Ouais, puis c'était banalisé, là, même la situation, mettons, un homme enseignant, moi, quand j'étais au secondaire, il y avait comme des filles de 16 ans qui sortaient comme avec des profs, c'était un peu caché, tu sais, je veux dire, c'était... Maintenant, ça serait comme super malaisant, là, mais c'était comme un peu accepté à l'époque, mais c'était comme...
Oh, ouais.
Fait que là, maintenant, je veux dire... Je pense qu'on est beaucoup plus préoccupé par ça, tant mieux, là, puis qu'on visibilise beaucoup plus ça. On le voit plus comme de la violence aussi. Il faut se rappeler hein, qu'avant, c'était avant les conservateurs de Harper, mais l'âge du consentement sexuel a diminué. Il était 16 ans, tu sais, puis il était 14 ans. Puis je veux dire,
c'était entre 12 et 14.
C'est ça, c'était 14 ans et les conservateurs l'ont augmenté à 16 ans.
16 ans. Mais faut pas qu'il y ait de palier. Exemple, si toi, tu as 16 ans, mais c'est ton patron au restaurant qui a 25 ans, bien là, il y a comme une...
Il y a une question de 5 ans aussi, de mémoire.
Oui, absolument, il y a des subtilités. Mais ça peut pas qu'il y ait un 5 ans. Si j'ai 16 ans, mais que la personne a 23 ans,
ça marche illégal. Pas.
Ça peut pas être ton patron, ça peut pas être ton enseignant.
C'est ça, une relation de confiance ou d'autorité, comme on dit.
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de travailler avec des hommes d'abus sexuels? On dirait que je me demande toujours, toi, tu as ton bac en psycho, tu as ta maîtrise en travail social, c'est ce qui t'a comme dirigé à vouloir travailler avec ces gars-là?
Ben moi, c'est quelque chose que, moi, dans ma vie personnelle, j'en ai vécu de l'intimidation, des choses à caractère sexuel aussi. Donc, c'est sûr que personnellement, je me sentais touché par ça, par être victime de quelque chose. J'ai toujours été très, très jeune. Moi, j'étais comme l'ami qui écoute ses amis de filles à l'école. Fait que, je pense que j'ai toujours été là-dedans. J'ai une mère qui a travaillé dans l'univers communautaire aussi.
Ouais. Fait que t'as toujours été une bonne oreille.
Ben c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose d'une vocation là-dedans. Après ça, moi, je me suis trouvé presque par hasard à travailler à Autonomie il y a une douzaine d'années. Il y avait un poste qui ouvrait 7 heures par semaine dans Charlevoix. J'étais comme, bon, je voulais me trouver une job. J'étais fraîchement diplômé, j'avais besoin de quelque chose. Je suis embarqué là-dedans. Puis finalement, je suis resté depuis ce temps-là. Mais fait que moi, je trouve ça, je sais pas, c'est des situations qui me touchent, cette vulnérabilité-là, le courage que je trouve que les gars ont de venir en parler. Puis, tu sais, c'est tellement un beau groupe. Tu sais, le résultat, c'est sûr que ça a l'air drôle à dire, là, c'est un beau groupe. C'est sûr que j'entends des choses horribles, tu sais, mais en même temps, je vois des choses tellement belles aussi à travers ça.
Il y a une solidarité, une confrérie.
Oui, oui. Puis les gars vont tellement mieux après aussi. Là. Tu sais, moi, j'ai des gars qui m'ont dit là, j'aurais donc dû faire ça avant. J'ai tourné la page sur mes agressions sexuelles. C'est, tu sais, fait que ça l'aide pour vrai. Là. Fait que ça, tu te sens tellement utile. Tu sais, au lieu de faire quelque chose, je sais pas moi, d'aller faire un formulaire, quelque chose dans un bureau quelque part. C'est-à-dire, moi, j'ai des vrais êtres humains qui me disent, tu sais, des fois, il y a des affaires super touchantes qui arrivent. On a fait, dans le cadre de notre 40e, on avait une soirée justement plus à thème, en lien avec les agressions sexuelles. Puis devant tout le monde, on est au Palais Montcalm. Il y a un gars qui a dit, hey, je voudrais juste témoigner que grâce à Vincent, tu sais, je suis encore en vie grâce à lui. Là.
Mais
il est en train de dire qu'il se serait suicidé si j'avais pas été là. À un moment donné.
Ça, c'est la paye, ça.
Mais
c'est
là,
la vraie paye.
Tu dis, Colin,
c'est un impact significatif sur les gens.
C'est quelque chose.
Pas ça pour rien,
non, c'est ça. Là. Fait que tu te sens utile. Là. C'est valorisant, ça, c'est certain. Là.
Aïe, on dirait que ça me vire à l'envers notre conversation ce matin.
Est-ce que quand on part chez Autonomie, là, est-ce qu'on repart avec un coffre d'outils psychologiques pour se préparer aux prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années?
Bien, je dirais oui en général, parce que dans le fond, on va s'adapter aux besoins du gars.
Ouais.
Fait qu'on va lui donner ce dont il a de besoin. T'sais, alors, souvent dans nos groupes plus à thème, il y en a qui a même des cahiers de participants avec des exercices, des informations, tout ça. Des fois, c'est moins structuré, mais le gars, à travers les relations avec les autres gars, va grandir comme personne.
Puis les gars, ils peuvent-tu revenir, mettons, l'année suivante?
Absolument.
Ah oh, oui.
Absolument. Il y a, des hommes. Non. Tu sais, quand un épisode de service est fini, si dans 2 ans il a besoin de revenir, il nous fait confiance, il revient, bien, il revient. Là.
Ça doit être super bénéfique parce que, tu sais, quand tu as la chance d'avoir un suivi privé avec un psychologue, un psychiatre, peu importe, tu sais, oui, tu fais un gros travail personnel, mais j'ai le sentiment que l'effet groupe de sentir que tu n'es pas tout seul.
Sans jugement,
de sentir qu'il y a quelqu'un qui a vécu ça aussi, puis que tu peux voir les parcours des autres, ça doit être libérateur sur un temps.
Oui, puis notamment en lien avec l'agression sexuelle, parce qu'on sait tous dans notre tête que oui, il y en a des gars qui se font agresser. On le sait dans notre tête, mais on ne va pas parler de ça à côté de la machine à café. « Ah, puis toi, ton viol quand tu étais jeune. » Je veux dire, ça n'arrive pas. Alors, de se retrouver dans un groupe où tous les gars qui sont là ont été agressés sexuellement, vont le raconter, on va en parler des conséquences. C'est comme ça, ça l'enlève complètement le tabou. Puis là, tout d'un coup, tu as des vrais êtres humains qui vont t'en parler, à qui tu peux poser des questions, à qui tu peux te comparer dans un sens positif, là, dire « OK, toi, tu as vécu ça comme ça. Hey, moi aussi, je me reconnais là-dedans. » Donc, ça, c'est très, très thérapeutique en soi. Là. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ça.
Je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour identifier des gens, mais quand on parle des agresseurs, là, parce que dans ce cas-ci, avec l'article du journal de Radio-Canada, on parlait d'agresseurs femmes qui auraient agressé de jeunes enfants. Ça peut commencer à 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Est-ce qu'on a le profil type de ces agresseurs-là? Est-ce que c'était des gardiennes, des gens de leur famille, leurs voisines, l'entourage?
Bien, c'est presque tout le temps uniquement des gens proches, premièrement. T'sais.
Alors qu'on a toujours tendance à faire confiance aux gens qu'on connaît.
Mm-hmm. Bien, c'est ça hein? Le paradoxe. Là. Ouais. Mais moi, j'ai tout entendu. Des grands-mères, des mères, des mères d'accueil. Oui, moi, j'avais un homme que lui, il fallait qu'il se faisait garder par sa grand-mère, puis il devait y faire le décunilingus là, à chaque fois. Là.
Donc,
c'est raide.
Ben oui, c'est ça. Trigger warning, désolé. Mais tu sais, c'est ça. Là. Donc, je veux dire, les mères, des grands-mères, des mères d'accueil, des grandes sœurs, des cousines qui sont beaucoup plus vieilles, qui disent « je suis ta première blonde, mais là, il ne faut pas que tu le dises, sinon on ne va pas pouvoir se marier ensemble. » Tu sais, le petit gars qui a 11 ans, 10 ans, il comprend ça, il pense que c'est sa première blonde. Oui. Fait que des tantes, vraiment tout l'entourage féminin des gardiennes, j'ai tout entendu là, en lien de frais de relation. Là,
OK. Donc, proche. On répète, l'organisme Autonomie, c'est là pour aider les gars. Nous, c'est un organisme régional qu'on a ici à Québec. C'est situé à quel endroit? Est-ce qu'on a le droit de le dire, c'est où?
Bien, absolument. C'est sur la 3e avenue, dans Limoilou.
3e avenue, dans Limoilou. Comment on fait pour vous rejoindre? Parce que là, tu as parlé tout à l'heure d'une... pas une porte ouverte,
ouais, mais
une clinique sans rendez-vous. Ouais. Parce qu'on parlait tantôt, tu sais, si on cherche de l'aide psychologique, les psychologues privés, bon, ça peut coûter cher si t'es pas assuré. Puis des fois, il y a une liste d'attente. Puis de l'autre côté, si tu veux passer au public, bonne chance. Tout ce qu'on a besoin, c'est de jaser. Fait que c'est dans le secteur Limoilou. On peut vous retrouver sur Internet?
Oui, absolument. Autonomie.org.
Autonomie, en passant, là, c'est y a un petit jeu de mots. Là. Ouais. C'est A-U-T-O-N-H-O-M-M-I-E. Il y a homme dedans, donc autonomie.org. Puis c'est pour tout type de problème chez l'homme. Là, on a vraiment parlé d'abus de violence sexuelle, mais vous aidez de façon générale les hommes dans toutes sortes de problèmes là, de santé mentale, des problèmes de rupture,
de violence conjugale.
Ce qui est le fun, le site web est vraiment bien fait. Là. Vous êtes capable d'aller retrouver les types de services finalement, si jamais vous en sentez le besoin, mais je trouve que c'est franchement bien fait.
Vincent, ça a été un plaisir. On va certainement se reparler dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. Je le souhaite du moins. Vincent Chouinard est coordonnateur clinique pour l'organisme régional Autonomie. Nous, on va faire une courte pause. Juste avant la pause, les amis, j'ai un cadeau pour vous autres. Steel Panther et Buck Cherry. Ça, c'est un de mes bands que j'aime bien. Buck Cherry présente la tournée Northern Exposure. Ça se passe au Théâtre du Capitole. C'est une super belle salle de spectacle en plus. C'est mercredi le 14 mai. Donc, ne manquez pas Steel Panther et Buck Cherry en spectacle ensemble. Restez à l'écoute de Boulevard 101 pour gagner votre paire de billets. Les billets sont en vente au théâtrecapitole.com dès ce vendredi à Saint-Valentin. C'est un beau cadeau, ça?
Non? C'est vrai que c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau.
C'est juste que c'est des groupes qui s'adressent un peu plus aux gars qu'aux filles.
Attention! Si tu savais, il y a quand même une bonne clientèle féminine.
Donc, Théâtre Capitole, dès ce vendredi, 10h pour les billets. J'ai une paire de billets à l'instant. Je vous fais entendre une toune de Buck Cherry. Bon, c'est moi qui l'ai choisi. Ça n'a pas été très difficile de la choisir. Dites-moi, c'est laquelle?
«
418-971-1021, 418-971-1021 par...
C'est le message à passer, hein?
Par texto. Par texto. Dites-moi le titre de cette chanson-là, puis c'est valide pour une paire de billets. Bonne chance! Rage Against the Mat.